Bonjour mes frères et mes sœurs. Êtes-vous certain de votre salut? Savez-vous si Dieu a vraiment en tête de vous sauver? Avez-vous des doutes parfois? Craignez-vous que vous allez chuter? Autrement dit, vous savez que Dieu vous a appelé dans son Église, Dieu vous a appelé afin que vous puissiez comprendre la vérité, vous ouvrir l'esprit, et il vous donne toute l'aide dont vous avez besoin avec son Saint-Esprit. Mais alors, pourquoi doutez-vous? Pourquoi certains d'entre nous, chaque jour, nous avons des doutes en ce qui concerne notre salut? Qu'est-ce qui nous empêche d'être absolument certains que Dieu nous aime et que Dieu veut nous sauver? Que Dieu ne nous a pas appelés afin que nous soyons perdus? Non! Et ça, c'est le problème. Vous n'avez qu'à vous examiner vous-même. Parfois, dans une journée, vous vous découragez, vous dites « Ouf, j'en peux plus ». Et puis, vous perdez confiance en Dieu, vous pensez que Dieu ne vous aime plus et que Dieu n'est pas là pour vous sauver. En réalité, c'est le contraire. Dieu est là, toujours à vos côtés, mais parfois vous avez les yeux fermés. Vous ne voyez pas la présence de Dieu. Si chacun de nous, nous pouvions faire un effort pour voir toujours la présence de Dieu, nous n'aurions pas des doutes en ce qui concerne notre salut. Évidemment, comme toute chose, notre salut dépend des conditions. Toute chose dans la vie est une question de cause à effet. Donc, si vous brisez la cause, il y a des effets qui s'en suivent. Le fait est que Dieu nous a appelés pour être sauvés, un point c'est tout. Il nous donne la force pour pouvoir avancer dans le bon chemin, un point c'est tout. Dieu nous aide toujours à marcher dans la bonne direction, mais dès ce moment-là, c'est votre décision. Vous pouvez accepter l'offre divine, vous pouvez la rejeter. C'est de là, justement, où les doutes commencent. Les doutes sont les résultats de notre manque de foi et en même temps de ne pas observer les lois divines, de ne pas comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu qui est toujours absolument dépendable. Alors, je vous repose la question, êtes-vous certain de votre salut? Sinon, pourquoi pas? Si c'est le cas, pourquoi la plupart du temps dans la journée, si vous êtes comme tout le monde, vous avez des doutes, vous avez des craintes, vous avez toutes sortes d'hésitations? C'est intéressant car si vous étudiez la Bible, si vous suivez vraiment les versets bibliques de Genèse à l'Apocalypse, vous ne pouvez jamais trouver un seul verset où Dieu vous dirait « Je vous ai appelé parce que je ne veux pas que vous ayez la vie éternelle ». Au contraire, Dieu nous dit à travers la Bible qu'il nous a appelés pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc, ça c'est cette promesse. Dès cette promesse-là, tout le reste est une question de doute humain. Des doutes qui peuvent nous être inspirés par Satan le diable, mais fait est que si vous cherchez la Bible, vous ne trouverez jamais un seul verset qui donnerait justification à vos doutes. Vous savez, le verset le plus connu dans ce qu'on appelle le christianisme, c'est Jean 3, verset 16. Tout le monde connaît ce verset par cœur. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Faut-il que je répète? Non. Autrement dit, nous savons tous, nous connaissons ce verset par cœur. Dieu a donné son Fils afin que nous ayons la vie éternelle. Voilà. Écoutez, dès ce moment-là, les doutes n'ont pas de justification. Certes, on peut expliquer pourquoi on a des doutes. La nature humaine, l'influence de Satan, je comprends. Mais c'est là où nous devons faire notre part. Nous devons faire notre part afin de pouvoir lutter contre ces tentations, contre ces doutes. Allons un peu plus loin. Ésaïe. Voyez-vous, dès que je dis Ésaïe, il y a déjà des doutes dans l'esprit des gens, de certaines personnes, parce que eux, ils font une division entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Là encore, c'est une pierre d'achoppement. Si vous croyez en Dieu, le Dieu de la Bible de l'Ancien Testament est le même Dieu de la Bible du Nouveau Testament. Il n'y a pas de différence. C'est le même Dieu. Donc, ce que le Christ dit dans le Nouveau Testament, il le répète dans l'Ancien Testament, sous forme de Seigneur, sous forme de Maître, Dieu, Éternel, etc. Une fois que vous comprenez ceci, voyez-vous, vous aurez une meilleure, je dirais, compréhension du plan divin, et vous cesserez de douter de la bonté de Dieu, de son aide. Ésaïe, chapitre 45, verset 22, regardez voir ce que Dieu nous dit. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Voilà, une promesse fantastique. Dieu ne ment pas. Dieu nous dit ouvertement, « Tournez-vous vers moi. » Autrement dit, « Faites ce que je vous dis. » Soyez le chrétien que vous devez être et vous serez sauvés. Et on ne peut pas trouver, des tours dans ce verset. C'est tellement simple. Car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je jure par moi-même, dit-il. La vérité sort de ma bouche. Ma parole ne sera point révoquée. Donc, voilà encore une autre assurance. Dieu vous dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Pourquoi douter de votre salut? Oui, mais les gens diront, ce Dieu de l'Ancien Testament, évidemment, c'était pour les Juifs et ainsi de suite. Mais voyez-vous, ce sont des petites excuses, ou bien de grandes excuses. Le fait est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce Dieu, c'est lui qui a inspiré l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce sont ces commandements qui apparaissent et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Cette division est ce qui nous fait douter de Dieu, de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, du caractère de Dieu. Dieu ne change pas, c'est ce que la Bible dit à travers les Écrits des apôtres, c'est ce que le Christ a dit. Ésaïe 45, nous avons vu. Maintenant, revenons au Nouveau Testament, Hébreux. Vous allez voir encore une autre assurance. Je dis ceci car, avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux que vous puissiez voir que nulle part dans la Bible, Dieu ne nous dit que nous ne pourrons pas arriver au but. Au contraire, Dieu veut que nous arrivions au but. Et ce sont ces doutes-là qui vous ruinent votre vie. Le matin, vous vous levez, vous êtes de mauvaise humeur parce que vous avez peur, vous avez des craintes, vous avez peur d'échouer, ou bien de ne pas avoir du succès, ou bien de ne pas réussir. Tout ça, voyez-vous, ce sont des doutes qui vous font douter et de votre vie et de l'intention divine de vous sauver. Car en fin de compte, soyons francs, qu'est-ce qui compte le plus dans cette vie? Aujourd'hui, hier, demain, le travail que vous faites, les amis que vous avez? Tout ça c'est bon, mais ça ce n'est rien à comparer à la vie éternelle. Donc, Dieu nous a appelés pour que nous puissions entrer dans la vie éternelle, c'est ça qui compte. Voilà pourquoi tous nos efforts doivent être dirigés aujourd'hui vers cette direction-là, pour que nous puissions entrer dans la vie éternelle. Hébreux, chapitre 7. Voyez encore une promesse divine. La même promesse qui se répète sous différentes formes. Regardez voir comment Dieu nous donne cette assurance qu'il veut que nous soyons sauvés. Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela, dit-il, qu'il peut, Dieu peut sauver parfaitement, étant toujours vivant pour intercéder en votre faveur, en faveur de leur saint. Regardez voir. Dieu, le Christ, le vivant, il intercède en votre faveur, en ma faveur, pour que nous puissions être sauvés. Alors, qu'est-ce que vous voulez encore comme preuve? Prenez 1 Timothée chapitre 2. À l'époque, comme vous savez, le Nouveau Testament n'existait même pas, encore n'était pas encore écrit, il y avait des fragments. Mais Paul écrit à Timothée, qui était son disciple, il dit ce que c'est que la Bible, évidemment, et en même temps, comment avancer dans la bonne direction pour être sauvé. 1 Timothée, chapitre 2. Je tourne les pages, parfois les pages de ma Bible collent. Alors, regardez voir 1 Timothée, chapitre 2. Disait ceci en toute franchise, sans arrière-pensée. Que vous soyez chrétien ou autre, ça n'a pas d'importance. Que vous ayez une compréhension de la Bible ou non, ça n'a pas d'importance. Pour comprendre ce verset, j'entends. Alors, quelles que soient vos croyances, regardez voir ce que la Bible dit. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Paul écrit sous l'inspiration divine, « J'exhorte, dit-il avec force, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des enquêtes, des actions de grâce, etc., pour tous les hommes. » 1 Timothée chapitre 2, pour tous les hommes, pas pour les chrétiens seulement, pour tous les hommes, pas seulement pour vos amis, les membres de votre famille, pour tous les hommes. Et dit-il, pour que nous puissions, pour les rois, pour tout le monde, pour que nous puissions donc faire ce travail, je paraphrase. Ensuite, regardez ce qu'il ajoute, et ça c'est important. Il dit, cela est bon et agréable aux yeux de Dieu, verset 3. Notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés. C'est formidable. Dieu suprême qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, c'est ce même Dieu, c'est ce Dieu-là qui vous a appelé. Et qui veut que vous soyez sauvés, évidemment, puisqu'il vous appelle, il vous donne son Saint-Esprit. Pourquoi dans ce cas-là avoir des craintes, des doutes? Je répète, c'est notre nature humaine. Nous voyons, nous regardons autour de nous, nous nous comparons aux autres. Nous voyons le succès de certains, nous nous décourageons. Nous voyons, nous constatons notre propre échec, nous nous décourageons. Nous ne pensons pas, nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas nous rendre compte que c'est Dieu qui fait tout à travers nous si nous nous soumettons à lui. Nous sommes peut-être et sûrement moins capables que d'autres personnes, ça n'a aucune importance. Faites ce que vous pouvez faire dans vos moyens et vous serez récompensés. Si vous avez des doutes pour votre salut parce que vous ne le faites pas autant que d'autres personnes, oubliez-le. Dieu les a appelés selon leurs capacités. Dieu vous appelle selon vos capacités. Et il veut que vous puissiez faire votre part. C'est ça, la vérité. Vous ne pouvez pas faire ce que je fais, je ne peux pas faire ce que vous pouvez faire, ou ce que vous faites. Mais chacun a reçu selon sa capacité, et si nous faisons notre part, si nous obéissons à Dieu, nous devons avoir aucune raison pour douter de notre salut. Revenons à l'Ancien Testament une fois encore, Psaume, chapitre 118. C'est intéressant, nombreux sont les chrétiens qui se tournent vers les psaumes lorsqu'ils sont en désarroi ou bien désemparés, ou bien tristes, ou bien découragés. Ils trouvent dans les psaumes, et c'est juste, de l'inspiration. Et pourtant c'est l'Ancien Testament, et pourtant c'est David qui a écrit, d'accord. Le psaume, comme le reste de la Bible, fait partie de la parole de Dieu. Le même Dieu qui a inspiré les apôtres a inspiré David à écrire en ce qui concerne notre salut, en ce qui concerne nos craintes, ce qui suit. Psaume 118, verset 7. Regardez voir comment cette force, prenons 6. Psaume 118, verset 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Ne tâchez pas de trouver des petites exceptions. Ou bien, oui, mais. Il n'y a pas de mais. La plupart du temps, vous raisonnez avec oui, mais. Et c'est vrai. Vos raisonnements, vos doutes sont souvent basés sur « oui, mais ». Dites « oui », laissez tomber le « mais ». Vous verrez la différence. Dieu vous dit « l'Éternel est mon sauveur, donc, et je me réjouis de mes ennemis ». Autrement dit, je me tiens fort. Verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. C'est pas un roi terrestre qui va vous sauver. C'est pas un président, c'est pas un chef, c'est pas votre patron qui doit vous sauver. Ce n'est personne au monde qui pourrait vraiment vous donner la vie éternelle. Le seul être qui peut vous rendre éternel, à la vie. Être éternel, c'est Dieu, le Christ. Donc soumettez-vous à lui, faites sa volonté. Vous savez quoi? Maintenant que j'ai dit ceci, je peux vous dire franchement que j'ai terminé ce sermon. Et c'est vrai, c'est le commencement et la fin de ce sermon, parce que c'est la vérité, ce que je vous dis maintenant. Le reste, ça peut vous aider à comprendre davantage, mais j'ai déjà couvert le sujet. Autrement dit, faites ce que Dieu vous dit, obéissez-vous à ses commandements, et faites votre part, et vous n'avez pas besoin de craindre, d'avoir des doutes. Bon, je sais qu'il faut continuer, il faut expliquer, bien, donc je m'en vais, je vais continuer. Maintenant, pensons un peu pourquoi nous doutons. Pourquoi le « oui, mais » ou bien « non, mais » Eh bien, je vous dirai pourquoi. Tout simplement parce que nous avons cette nature humaine en nous. La nature humaine n'a pas la force nécessaire sans l'aide divine. Et cette nature humaine aujourd'hui est encore influencée par Satan le diable qui ne veut pas que tous les hommes soient sauvés. Voilà la différence. Satan voudrait détruire, Dieu veut construire. Satan est un destructeur, Dieu est un constructeur. Satan veut que nous mourions parce qu'il va mourir, pour ainsi dire. Il va disparaître de la circulation, tandis que Dieu veut que nous vivions à jamais. Voilà, c'est cette lutte-là que Satan, par sa force, et là de la force, nous influence et nous décourage. Tout ce qui est doute vient de Satan. Tout ce qui est force de caractère, nous est inspiré par Dieu. Lorsque vous pensez à la vie éternelle, n'ayez aucun doute dans votre esprit. Ces doutes qui viendront autour de vous viennent de Satan, rejetez-les. Ce qui est triste, c'est que l'influence de Satan s'est fait sentir en ce bas monde dès le commencement. Et c'est logique parce que Satan, à l'époque, avant même que l'homme ait été créé, Satan était le roi sur cette terre sous le Christ, sous l'éternel Dieu. Satan était au-dessus des anges. Il contrôlait les anges. Ça, c'est une autre histoire. Vous trouverez dans Ésaïe chapitre 14, Ézéchiel chapitre 28. Ça, je laisse de côté. Mais lorsque Satan s'est rebellé contre Dieu, parce que toute cette gloire est entrée et a vraiment fait enfler Satan, à l'époque qui s'appelait Lucifer, donc Lucifer est devenu Satan. Dès ce moment-là, il a perdu son trône, pour ainsi dire. Il a encore la puissance jusqu'à ce que le Christ revienne. Mais maintenant, Satan est capable d'influencer les gens, de les décourager. De vous décourager, vous, de me décourager, moi. Mais vous ne devez pas le laisser vous décourager, moi non plus. Comprenez-vous? Alors, dès que vous avez, je répète, des doutes, éloignez-vous de ça, tournez-vous vers Dieu, comme Dieu a dit dans Ésaïe, tournez-vous vers moi. Regardez ce qui s'est passé. Pouvez-vous me dire, dans la Bible, que Dieu a créé Adam et Ève pour les détruire? Mais pensez-y, vraiment Dieu a-t-il dit dans Genèse, je vous crée, vous, l'homme et la femme, parce que je veux que vous mouriez. Mais écoutez, pourquoi les a-t-il créés? Au contraire, il a créé Adam et Ève pour que Adam et Ève puissent se réjouir dans cette vie, puisqu'ils puissent avoir une vie heureuse et puissent, à la rigueur, un jour, avoir accès à la vie éternelle, l'arbre de la vie, dans Genèse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Adam et Ève, écoute, sois heureux, multiplie-toi et cultive le jardin. Et Dieu a dit à Adam et Ève, vous ne toucherez pas à un certain arbre, la connaissance du bien et du mal, car, dit-il, le jour où tu en mangeras, ou bien vous en mangerez, vous mourrez. Alors, l'ordre est strict, c'est clair. Qu'est-ce qui se passe? Lucifer, devenu Satan, se présente devant l'homme, le couple, et dit, vous savez, Dieu vous a menti. Vous ne mourrez pas. Voilà ce mensonge qui a été la cause, je dirais, de la destruction de cette paix sur cette terre. Dieu avait dit que si nous désobéissons à ses ordres, nous mourrons. Satan a dit, non, c'est pas vrai. Vous désobéissez, vous vivrez quand même. Et vous savez ce quoi? C'est cela le commencement des douleurs de l'homme. C'est ici le commencement des doutes, des craintes, des peurs. Car vous faites ce que vous pensez, ou bien ce que Satan vous inspire. Dès ce moment-là, vous êtes en désarroi. Vous vous coupez de Dieu. C'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas combien de temps vous avez vu Genèse, chapitre 3. Parce que je dis, cherchez dans la Bible, vous ne trouverez pas que ça, Dieu a créé l'homme et la femme pour les détruire. Non. Mais alors, regardez voir. Lorsque Dieu a créé le premier couple, Dieu parlait au premier couple. Il s'entretenait avec eux. Il leur avait dit même, écoute, prends les animaux et puis nomme-les, donne-leur un nom à chaque animal, j'accepterai ta proposition. Genèse chapitre 2. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y avait une conversation ouverte entre Dieu et Satan et le couple. Mais une fois que le couple s'est détourné de Dieu, une fois que le couple s'est détourné des commandements de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Regardez voir. Genèse chapitre 3. Dieu appelle Adam, verset 7, lorsqu'ils ont mangé du fruit défendu, les yeux se sont ouverts, ils avaient noté qu'ils sont nus. Là, compris, la honte est entrée dans leur esprit. Ensuite, l'Éternel les a appelés. Ils voulaient se cacher loin de la face de l'Éternel. Verset 9, Genèse chapitre 3, verset 9. L'Éternel Dieu appela l'homme. Elle lui dit, « Où es-tu ? » Elle dit, « J'ai eu peur parce que je suis nu. » Étrange. Il n'avait pas peur avant lorsqu'il parlait à Dieu. Pourquoi il a eu peur maintenant ? Pourquoi tout d'un coup il s'est rendu de cette nudité dont tu parles ? J'en parlerai plus tard. Mais le fait est que, voyez-vous, ici, il a transgressé la loi divine et la peur. Donc, la crainte commence dès que vous transgressez la loi divine. Et Dieu, évidemment, a dit, tu as eu peur parce que tu as mangé du fruit défendu, et ainsi de suite. Voilà. Voyez-vous, cette histoire peut être la vôtre et la mienne. C'est exactement ce qui se passe dans notre vie. Un jour, nous avons peur. Pourquoi? Parce que nous avons transgressé des lois divines. Parce que nous avons commis des actes qui n'auraient pas dû être commis, et ainsi de suite. Ou dit des choses qui n'auraient pas dû être dites, et ainsi de suite. Voilà. C'est simple et c'est difficile. Car c'est cette nature humaine sous l'influence de Satan. Mais continuons. Avec Adam et Ève, nous avons vu que la désobéissance a entraîné la mort. Qu'est-ce qui se passe? Après, Dieu a choisi une nation. Une nation afin que cette nation prenne la place d'Adam et d'Ève, pour ainsi dire, qu'il puisse lui obéir. Il a dit à cette nation, Israël, vous m'obéissez et vous serez bénis. Je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. Vous n'aurez besoin de rien, car je vous protégerai. Je paraphrase maintenant, vous n'avez qu'à vous voir, par exemple, dans Deutéronome chapitre 28. Il a dit, je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. Le succès face à vos ennemis. La bonne récolte, l'abondance, vous serez dans l'abondance, vous serez au-dessus de toutes les nations. Tout ça, mes amis, c'est dans la Bible. Deutéronome 28, lisez-les. Lévitique 26, lisez-les. Alors, vous avez toutes ces promesses. Qu'est-ce que Dieu voulait? Il voulait que les Israélites se perdent? Non. Au contraire, il voulait qu'ils soient donc supérieurs aux autres. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu avait dit, si le jour où vous vous détournez de moi, c'est le contraire qui va se passer. Vous serez maudits, vous perdrez tout. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi le même chemin que Adam et Ève. Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Notez dans Exode chapitre 20. C'est très intéressant, car lorsque j'ai dit Exode 20, la première idée dans l'esprit des gens, je répète, d'une façon générale, oh, voilà encore l'Ancien Testament. Voilà encore les 10 commandements. Eh bien, mes amis, mes frères et mes sœurs, l'Ancien Testament fait partie du Nouveau Testament. Les 10 commandements sont toujours valables aujourd'hui. Ce sont les mêmes commandements que le Christ a proclamés. C'est normal parce que c'est lui qui a donné. Dans ces 10 commandements, Dieu nous dit exactement de la conduite humaine vis-à-vis de Dieu et la conduite humaine vis-à-vis les uns des autres. Alors, je reviens à ma première question. Trouvez-moi dans la Bible un seul verset où Dieu dira « J'ai choisi une nation pour les faire mourir ». Vous ne trouverez pas ça. Au contraire, lorsque Dieu a choisi cette première nation, prenons Exode chapitre 14, Dieu a fait 10 miracles pour montrer aux gens qu'il allait les faire sortir d'Égypte, car cette nation qu'il avait choisie, les Israélites, était malheureux en Égypte. Gémissait, il demandait à Dieu, écoute Dieu, aide-nous à sortir d'Égypte. Dieu les a fait sortir d'Égypte. C'est votre histoire, c'est la mienne. Nous prions, Dieu aide-nous, Dieu nous aide. Et pour montrer aux Israélites qu'il entendait ce qu'ils disaient, il a montré 10 miracles fantastiques. Alors, je vous pose la question, en toute sincérité, pouvez-vous dire vraiment que Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte pour les faire tuer? Non, évidemment pas, ça serait idiot. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Regardez voir. Après 10 miracles, Exode 14, verset 10, lorsque les Israélites sortent d'Égypte, lorsqu'ils voient Pharaon, verset 10, Exode 14, verset 10, qui marche derrière eux, les enfants d'Israël, verset 14, verset 11, eurent peur. Pourquoi? Ils avaient la frayeur. Pourquoi s'effrayer? Dieu les avait-il fait sortir d'Égypte pour les faire mourir? Pas du tout. Mais regardez ce qui se passe. Ils ont peur et commencent à blâmer Dieu. Ils disent, verset 11, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût nécessaire pour que nous mourions ici au désert? Que nous as-tu fait? Ils blâment Moïse. Ils blâment Dieu. Ils disent, que nous as-tu fait, dit-il, en nous faisant sortir d'Égypte? Laisse-nous servir, 12, regardez voir ça. Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Incroyable. Qu'est-ce qui avait dit que Dieu l'avait fait sortir d'Égypte pour mourir dans le désert? En Égypte, ils souffraient, ils criaient du secours. Maintenant que le secours est venu, il dit, on va retourner en arrière. Commencez-vous à comprendre la source des doutes, la source des craintes. Là, ils avaient peur parce qu'ils avaient désobéi à Dieu, ils ne font pas ce que Dieu dit. La même chose lorsque les 10 commandements sont venus, Exode chapitre 20, comme je dis. Regardez, Dieu donne dans 10 commandements la voie à suivre. Il dit comment avoir des rapports comme il faut avec Dieu et comment avoir des rapports les uns avec les autres en ce qui concerne les êtres humains. Si Dieu vous parlait ainsi, qu'est-ce que vous diriez? Je vous pose la question. Si vous entendiez, mettons, la voix de l'Éternel, si c'était possible, en disant, écoute mon ami, voilà ce que tu dois faire, voilà les 10 commandements, qu'est-ce que vous feriez? Exode 20. 18, verset 18. Tout le peuple entendit les 10 commandements dont je vous parle. Entendit les tonnerres par le son de l'éternel, parce que c'est comme ça que la voix puissante se manifestait. À ce spectacle, dit donc, le peuple tremblait, et c'est normal. Et se tenait donc dans l'étonnement, dans l'éloignement. Alors, il dira à Moïse, verset 19, parle-nous toi-même, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous mourions. C'est idiot. De peur que nous mourions, mais écoutez, c'est idiot. Dieu leur parle pour montrer la voie de la vie éternelle. Ils disent à Moïse, écoute, on veut pas que Dieu nous parle, on a peur de Dieu. Mais tu nous parleras. Et puis après, ils ont fait une promesse qui n'était pas juste. Ils ont dit, on nous écouterons. Non, ils n'ont pas écouté. Vous connaissez le reste. Ils ont souffert et ils sont morts dans le désert. Dieu ne les avait pas fait sortir d'Égypte pour qu'ils meurent dans le désert. Mais ils sont morts dans le désert parce qu'ils sont détournés de Dieu. Commencez-vous à comprendre. L'obéissance à Dieu vous met sur le chemin de la confiance, de l'amour, du respect les uns envers les autres. L'obéissance aux lois divines vous donne la paix d'esprit. Parce que vous savez que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par les lois divines. Vous êtes protégé par la force divine, par le Saint-Esprit de Dieu. Mais lorsque vous vous détournez de Dieu, comme je dis par exemple dans Deutéronome chapitre 28, lisez le chapitre. Vous verrez que c'est la catastrophe. Tout va très bien. Toi très mal. Voilà. Voilà pourquoi nous avons des doutes. Voilà pourquoi nous avons des craintes. Voilà pourquoi nous disons, oui, je suis d'accord, mais. Eh bien, mes frères et mes sœurs, mes amis, laissez tomber ce mais. Si Dieu vous dit quelque chose, faites-le. Sans trouver des exceptions. Vous verrez la différence. C'est quelque chose que le premier couple n'a pas fait. C'est quelque chose que la première nation n'a pas fait. Et c'est quelque chose qui dépend de vous. Si vous voulez faire ou non, vous êtes seul maître de cette décision. Satan a ses moyens pour vous séduire. C'est très facile. Écoutez, vous êtes humain, je suis humain. Vous êtes sujet aux tentations, je le suis en même temps. Je vois quelque chose qui me plaît, je convoite. C'est humain, c'est la nature humaine. Et tout ça sous l'influence de Satan. Plus je convoite, plus Satan me poussera à convoiter. Plus je fais les choses à ma façon, plus Satan me poussera à faire les choses à ma façon. Plus je me soumets à Dieu, plus Satan se tâchera de me faire détourner de Dieu. Voilà pourquoi je répète la différence. Ce sont des outils dont Satan se sert. Satan se sert de la convoitise. Regardez autour de vous. Regardez le commerce, la publicité. Mais tout est fondé sur la convoitise. Si cette convoitise vous attire, évidemment, vous serez donc un instrument entre les mains de Satan. Mais c'est partout aujourd'hui. D'autre part, si vous vous détournez de la convoitise, vous vous approchez de Dieu. Le mensonge est un autre outil dont Satan se sert. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou non, mais je suis sûr que la plupart du temps, vous mentez d'une façon ou d'une autre sous des excuses. Oh, c'est un petit mensonge. Oh, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de petit mensonge. Il n'y a pas un mensonge blanc ou bien bleu ou bien rouge. Un mensonge est un mensonge. Et nous excusons souvent par des mensonges. Nous nous justifions par des mensonges. Nous nous agrandissons par des mensonges. Voilà, ce sont des outils dont Satan se sert, je répète, que ce soit mensonge, que ce soit convoitise, que ce soit du vol. Vous savez quoi? L'autre jour, je lisais, c'est intéressant, l'époque de Noël est l'époque où il y a le plus de vol en ce qui concerne dans les magasins. Les gens vont acheter des étrennes, des cadeaux à l'occasion de Noël, et voilà, tout en achetant des étrennes, ils volent. Il n'y a plus de vol dans les magasins, il paraît qu'il y a 10% des achats, entre guillemets, sont des vols. Et pourtant, on célèbre sincèrement une fête chrétienne. Tout ça, ça se fait sous l'influence de Satan. Vous et moi, nous devons être forts. Toujours nous tenir sur la voie que Christ a tracée devant nous et nous éloigner de cette tentation. Il y a toujours là cette tentation. Vous savez, je sais, j'ai vécu assez longtemps dans ma vie, je sais que la tentation est réelle. En toute chose, le succès, ça peut monter à la tête de tout le monde. Souvent, regardez voilà, les présidents que nous avons dans tous les pays. Tout d'un coup, ça saute à la tête. Oh, tiens, je suis grand, je peux faire tout. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où des rois ont dit, voilà, je suis grand. Et Dieu les a écrasés. Dieu peut écraser tous ces grands, entre guillemets, y compris vous et y compris moi. Donc, soyons humbles devant Dieu et éloignons-nous des instruments de Satan pour nous soumettre aux lois divines. Je vous ai dit il y a quelques instants, les gens, d'une façon générale, les chrétiens, j'entends, n'ont pas de respect pour l'Ancien Testament, sauf pour les psaumes, proverbes. Parce qu'ils pensent que les commandements de l'Ancien Testament, c'est pour les juifs. D'abord, vous ne trouvez ça nulle part dans la Bible. Ensuite, les juifs sont des hommes, des êtres humains comme vous et moi. Les commandements qu'ils ont reçus, essentiellement, ou les commandements donnés aux Israélites, essentiellement, s'adressent à nous parce que nous sommes des êtres humains. Donc, les commandements divins sont pour les êtres humains, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau. Il n'y a pas de différence. Dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas la compréhension spirituelle, je comprends. Ils savaient ce que c'était que de ne pas commettre l'adultère, physiquement parlant, mais non pas dans l'esprit. Dans le Nouveau Testament, le Christ, par son esprit, nous dit la différence entre l'adultère physique et l'adultère spirituel. De même, entre un mensonge physique et un mensonge spirituel. De même, entre un vol physique et un vol spirituel. Ainsi de suite. Autrement dit, on cherche toujours des excuses. Le fait est que la seule différence, je répète, entre les écrits de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament, c'est que le Nouveau Testament met l'accent sur le côté spirituel de la lettre, sans pour autant éliminer le côté physique. Une fois que vous avez compris cette vérité, vous êtes absolument sur le bon chemin. La loi est la loi dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. La seule différence, c'est que le Nouveau met l'accent en même temps, je dis bien en même temps, sur l'esprit de la loi. Mes frères et mes sœurs, si vous n'avez rien compris de ce sermon, sauf ce passage, ça vaut déjà la peine. Je répète, la seule différence entre les lois de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est que le Nouveau Testament, sans détruire le principe ou la lettre de la loi, y ajoute l'esprit de la loi, c'est-à-dire le respect spirituel des commandements. Dans Jérémie chapitre 9, il y a un passage qui est vraiment, à mon avis, extrêmement encourageant, car comme le Christ a dit, il est venu pour que tous soient sauvés. De même, le même Christ parle à travers le prophète Jérémie. Il dit la même chose d'une façon différente, car voyez-vous, en ce moment, nous nous glorifions de ce que nous avons, parfois du peu que nous avons. Et parfois, nous sommes tellement, comment dirais-je, pleins de vanité, que nous perdons le sens même des enseignements bibliques. Regardez ce que Dieu dit par la bouche de Jérémie, chapitre 9, verset 23. « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. » Et pourtant, regardez autour de vous aujourd'hui, regardez ces savants qui ont inventé tellement de choses, ils sont fiers d'eux-mêmes. L'homme du XXe siècle, du XXIe siècle, est tellement fier de sa, de ces achèvements. Nous avons inventé toutes sortes de choses, des ordinateurs, les avions à réaction. Nous pouvons aller à la lune et revenir. Fantastique. Donc, voyez-vous, tout comme Lucifer, tout d'un coup maintenant les gens se croient très importants. On n'a plus besoin de Dieu, on peut faire tout. Et l'attitude. Dieu dit que le sage, c'est-à-dire sage, celui qui a l'intelligence, ne se glorifie point de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Là encore, une nation forte aujourd'hui veut dominer les autres. Cette force n'est rien, vous perdez tout. Que le riche ne se glorifie point de sa richesse. C'est ce que je vous disais. Écoutez, peut-être vous êtes très riche, ou bien vous avez beaucoup de talent, mais tout ça, d'abord, vient de Dieu, parce que c'est lui qui vous donne. Et tout ça, c'est rien. Aujourd'hui, vous l'avez, demain, vous perdez tout. Voilà pourquoi Dieu dit que le riche ne se glorifie point de sa richesse, mais, verset 14, voilà le secret, que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de la sagesse, et de me connaître. De savoir que je suis l'éternel Dieu. Hein? Vous avez entendu? Dieu dit, si vous voulez vraiment être, vous glorifier de quelque chose, dites que vous comprenez la Bible, que vous êtes proche de Dieu, vous aimez Dieu, vous comprenez de Dieu, et vous voulez le suivre. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce, voilà maintenant le caractère de Dieu. Qui est Dieu? Voilà. Qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Est-ce le cas? Lorsque vous doutez, est-ce que vous avez ce sentiment? Probablement pas. Vous commencez à douter du droit, de la bonté de Dieu. Donc si vous avez cette certitude, vous pouvez vous glorifier de cette connaissance. Il est de Dieu qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre. C'est à cela, dit-il, que je prends plaisir de l'éternel Dieu. Alors, revenons à notre sujet. Que craignez-vous? Le matin, vous vous levez, vous êtes malade. D'un coup, vous vous rendez compte que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez voir peut-être un médecin et vous apprenez que vous êtes gravement malade. Bon. Ou bien alors, vous vous levez. Le matin, vous allez travailler, vous revenez, vous avez perdu votre travail. Triste. Ou bien vous avez une famille brisée. Ou bien vous avez une tragédie. Toutes ces choses-là sont réelles. Ça peut arriver. Alors, quand ces choses arrivent, commencez à douter de Dieu, de celui qui est toute bonté, toute sagesse, toute justice, qui vous a appelé pour que vous soyez sauvés. Est-ce que vous mettez l'accent sur cette tragédie ou ces inconvénients plutôt que de dire Dieu m'a promis de me sauver. Dieu me donne toute la force dont j'ai besoin. Je n'aurai pas crainte, comme David le dit, de qui que ce soit. Je reste fidèle à Dieu et je sais qu'il trouvera et me montrera à trouver le moyen d'en sortir. Vous savez, dès que vous entrez dans cette vérité, vous avez la force. L'autre jour, quelqu'un me dit, écoutez, pourquoi est-ce que les gens que Dieu aime meurent? Écoutez, c'est ridicule. Dès le commencement, des gens que Dieu aimait sont morts. Et ils mourront encore. La mort n'est que quelque chose de physique sur cette terre. Nous mourrons, nous ouvrons les yeux, nous sommes dans le royaume de Dieu si nous sommes appelés. Et si nous faisons notre part. Donc, ça, c'est pas des excuses. Le fait est que, si nous avons les yeux sur la vérité, sur le principe même de notre appel, ça sera un monde tout à fait différent. Nous aurons la paix d'esprit, vous savez. La plupart du temps, nous n'avons pas la paix d'esprit parce que nous dirigeons notre attention sur des choses qui sont passagères. Vous savez, pour moi, c'est tellement intéressant de voir la façon dont les gens raisonnent aujourd'hui. Nous avons vu dans la Bible qu'il y a un seul Dieu. Où est ce Dieu? ce Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Nous avons vu, et nous voyons dans la Bible, qu'il y a une seule Église. Notez-le. Si vous êtes chrétien, vous devez croire aux paroles du Christ, le Christ qui ne ment pas, l'éternel Dieu qui ne ment pas. Regardez ce que le Christ a dit à ses apôtres. Matthieu chapitre 16. Il s'entretenait avec les apôtres parce que tout le monde se demandait qui est le Christ. Il a dit aux gens, écoutez, que disent les gens que je suis? Matthieu 16. Et certains ont dit, tu es Jean-Baptiste, tu es Esaïe, tu es Jérémie. Et le Christ a dit, mais vous, aux disciples, qui êtes-vous que je suis? Et l'apôtre Pierre, verset 16, a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16. Et le Christ a dit, écoute, c'est la vérité de ce que tu dis, j'apprends après. Il dit, c'est pas la chair que t'as élevé cette vérité, c'est Dieu. Ensuite, il a fait une promesse. Il dit, tu es Pierre, tu es un homme, mais dis-tu sur le rocher, parce que ce mot Pierre ici, en grec, c'est ça, il dit, je bâtirai mon église. Regarde voir ça. Le Christ bâtira son église. Verset 16. Sur le rocher, sur le Christ même. Il n'a pas dit, je bâtirai mes églises. Il y a une seule église. Et c'est sous l'influence de Satan que les gens se sont construits plusieurs milliers, entre guillemets, d'églises. C'est Satan qui a créé cette confusion en matière de religion. Il y a une seule église, un seul Dieu. Si vous avez cette compréhension, vous n'aurez jamais peur de quoi que ce soit. Vous n'aurez jamais « oui, mais ». Je veux dire, j'entends tellement ce « oui, mais ». Je parle à quelqu'un, mettons, et c'est arrivé souvent, qui est en difficulté. Je tâche de lui expliquer ce que je fais maintenant. Il écoutera, il dira « oui, je comprends très bien ». Mais vous, ça commence, mais vous comprenez pas. C'est ça qui nous faiblit, voyez-vous. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Voilà encore une vérité absolue. Il est temps que nous puissions vraiment y réfléchir et croire et agir en conséquence. L'apôtre Paul, à l'époque, était prisonnier et il parle justement de la vérité. Il parle de l'amour, de la paix. Il dit verset 4, il dit, il y a un seul Dieu, il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi dit-il, vous avez été appelés à une seule espérance. Voyez-vous, il n'y a pas 3, 4, 5 différentes espérances, ou bien différentes églises. Je parle maintenant de la véritable église. Un par votre vocation, il y a un seul Seigneur, un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, verset 5, verset 6. Un seul Dieu, Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous. Voilà l'Église dont on parle. Et maintenant, regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous constatez? Même au sein du christianisme, il y a plusieurs centaines de religions. Je parle maintenant d'autres religions. Et ensuite, même parmi ceux qui croient en Dieu et qui obéissent à Dieu, essentiellement, il y a des divisions. Pourquoi? Parce que Satan veut diviser. Satan veut faire exactement ce qu'il a fait avec Adam. Mettre du doute dans l'esprit de l'être humain, dans le vôtre, dans le mien. Satan veut absolument détruire ce que Dieu veut construire. La voix de Satan, c'est la crainte et le doute. La voix de Dieu, c'est la foi et la certitude et le courage. Une fois que vous comprenez ceci, vous verrez que les églises dont la Bible parle, c'est-à-dire dans l'Apocalypse, parce que là, les gens m'ont parlé. Oui, il y a cette église dans l'Apocalypse. Non, il n'y a pas cette église dans l'Apocalypse. En ce moment, il y a des milliers d'églises, si vous voulez. Mais dans l'Apocalypse, dans la Bible, il y a une seule église. L'église de Dieu, la véritable. Et cette église de Dieu, à travers des siècles, a passé par des stades ou bien attitudes. Voilà pourquoi, à l'époque du Christ, lorsque l'apôtre Jean a écrit aux sept églises dans l'Apocalypse, il a décrit l'état de chaque église, l'état d'attitude. Mais c'est toujours l'église de Dieu. Les sept églises, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, je répète, je ne vais pas analyser ce sujet, mais les sept églises décrites dans l'Apocalypse démontrent les sept attitudes de l'église de Dieu. Selon l'époque, selon l'âge, selon l'endroit, ces églises avaient une attitude différente et Dieu donne à chaque église, l'église de Dieu toujours, des recommandations précises. Je vais terminer avec ça, sans entrer, je répète, dans les détails, parce que c'est un sujet tout à fait différent. Quand on va dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Le Christ parle, d'abord chapitre 1, le Christ parle de lui-même, de son rapport avec l'Église. Et chapitre 2 et chapitre 3, le Christ inspire l'apôtre Jean à écrire l'état de chaque phase de l'Église à l'époque. Et ces phases existent encore aujourd'hui. Autrement dit, cette attitude, cette disposition existe aujourd'hui en chacun de nous. Regardez voir, je prendrai juste, pas en détail, mais en gros, le message que le Christ donne aux sept églises de Dieu. Chacune de ces phases est une église de Dieu. Ce n'est pas une église païenne. Mais des individus qui en font partie se sont détournés de Dieu dans certains cas. Dieu les dit, écoute, voilà où tu as commis une faute, reviens à moi. C'est toujours un rappel de retour. Revenez, changez. C'est le message que vous trouvez dans Apocalypse 2 et 3. Apocalypse 2, l'église d'Éphèse. C'est intéressant, là encore, je dis, c'est pas mon sujet. Mais chaque fois, à chaque église, prenez le temps, chaque fois le Christ se présente sous un nom différent. Sous une forme, si je puis dire, différente. Par exemple, à l'église d'Éphèse, il dit, voici celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers. C'est vrai pour toutes les églises, les autres églises, les sept églises, mais le Christ ne dit pas ça aux autres églises. Il se présente à l'église d'Éphèse sous cette forme. Ensuite, il leur dit ce qu'ils ont fait de bien, mais ensuite il dit, voilà maintenant le reproche. Voilà où vous avez vraiment failli. Verset 4, j'ai dit, voilà ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Voilà une phase. Certains dans l'Église ont perdu leur premier amour. Le Christ, le dévouement. Le moment de Christ les a appelés, vous a appelés. Quelle a été votre réaction? Vous étiez enchanté, non, parce que vous avez découvert la vérité, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose lors du chemin, sous l'influence de Satan, ou bien par vos convoitises, vous détourne de votre enthousiasme, et vous avez perdu votre premier amour. Voilà, donc, une leçon à apprendre lorsque vous lisez le message à Éphèse, l'église d'Éphèse. Ensuite, mais à chaque église, le Christ dit aussi la même chose. Par exemple, ici, à l'église d'Éphèse, il dit, verset 7, verset 8, à celui qui vaincra, je donnerai, ensuite la récompense varie un peu, mais il y a une récompense à chaque phase et il y a une condition principale, vaincre. Partout dans tous ces messages, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Bon, prenez la deuxième église ici, l'église de Smyrne. Oui, il se présente ici d'une façon un peu différente, à nouveau. Il y a une raison pour ça. Un jour, peut-être j'en parlerai en détail. dit voici, verset 8, Apocalypse 2, voici, dit-il, ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est une introduction différente, mais c'est le même Christ. Il se présente sous une forme différente. Et il donne la même chose. Il leur dit, il leur montre leur problème, et il les met, il leur donne un avertissement. Vous n'avez qu'à lire le reste. Et ensuite, la récompense se présente sous une forme un peu différente, mais la conclusion est toujours la même. Verset 11, Apocalypse 2. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Une promesse, une récompense, sous une forme différente, mais quelles sont les conditions? Les mêmes. Vaincre. Lorsque vous avez vaincre, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de crainte. L'église de Pergame, verset 12, Apocalypse 2, il dit, il se présente, voici ce qu'il dit, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. C'est le même Christ qui s'est présenté auparavant en disant, je suis le premier et le dernier. Voyez-vous, et maintenant il se dit, il se présente, celui qui a l'épée aiguë de tranchant. Et ensuite, à nouveau, je ne vais pas entrer dans le détail, il leur montre leurs problèmes, leurs difficultés. Et il dit, écoute, change d'idée et tu auras une récompense. Et la récompense est présentée encore sous une autre forme. Il dit, repens-toi. Voilà la clé. Verset 16, repens-toi, change. Ensuite, la même conclusion à celui qui vaincra. Commencez-vous à comprendre. Dans tout ce que j'ai dit, dans tout ce aujourd'hui, ça doit vous montrer que Dieu veut que nous puissions réussir. Dieu veut que nous puissions arriver au but. Dieu veut que nous puissions vraiment être vainqueurs, être sauvés, être dans son royaume, et non pas nous détruire. Ensuite, au verset, à l'église de Thyatire, verset 18, qu'allez voir, il se présente à nouveau sous une forme différente. Du voici, dit-il, ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Mais c'est le même Christ qui s'est présenté ailleurs sous une forme différente. Mais maintenant, il y a des raisons pour ça, et je vous dis, vous n'avez qu'à étudier, mais le fait est que, voyez-vous, sans le besoin, il se présente sous une forme différente et il leur dit à nouveau leur problème, par exemple, verset 20, voilà ce que j'ai contre toi, etc. Ensuite, en fin de compte, il revient toujours au même principe. À celui qui vaincra, verset 26, et il montre maintenant la récompense sous une forme différente. Et c'est toujours le même Dieu, c'est toujours la même récompense, la vie éternelle, sous des angles, sous des postes différents. Il dit à celui qui vaincra, dit-il, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, dit-il, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, autrement dit la force que ces gens auront. Et ensuite, dit-il, et je donnerai l'étoile du matin, l'autorité. Et la conclusion, toujours à celui qui vaincra. Commencez-vous à comprendre. Prenons les trois phases qui restent encore, il y a cette église. Prenons maintenant l'autre phase, la phase de ce qu'on appelle le Sardes. Ça, c'est intéressant, car l'église de Sardes, à l'époque, c'était une église qui existait. C'était une église qui était presque morte. Les gens avaient perdu leurs ailes. Ils étaient morts, comme le Christ appelle, et certains d'entre nous aujourd'hui sommes dans cette catégorie. Nous sommes appelés, nous sommes heureux lorsque tout va bien. Nous sommes chrétiens lorsque tout marche bien. Mais lorsque les choses se gâtent, je suis dans l'église, eh bien, j'espère que Dieu va me sauver. C'est pas ainsi que vous arriverez au salut. C'est pas ainsi que le Christ a dit à celui qui vaincra. Vaincre ne demande pas hausser les épaules, dire « Bon, j'espère que Dieu va me sauver. » C'est cette attitude que vous voyez. L'église de Sardes était des gens qui étaient presque morts. Et j'espère que ça soit votre cas aujourd'hui à vous. J'espère que vous êtes vous-même, tu dis, oh ben, j'espère que Dieu va me sauver. Lorsque vous avez des doutes, c'est cette attitude que vous avez. Et Dieu dit, à nouveau, repens-toi. Et il se présente à eux encore, regardez voir d'une façon différente. Il dit, verset 1, chapitre 3, Apocalypse, voici, dit-il, celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Intéressant. C'est le même Christ qui se présente sous un angle différent, pour ainsi dire. Et il leur dit la même chose. Celui qui vaincra, verset 3, il faut en sortir, il faut changer. Il dit, il sera vêtu de vêtements, etc., la récompense. Ensuite, nous avons la sixième église ici, si vous voulez, l'église de Philadelphie. J'aurais voulu passer le temps, mais je pense que je n'ai pas le temps, mais laissez-le voir. Cette église de Philadelphie est celle qui reçoit le moins de reproches, mais il y a quand même des instructions. Il se présente à l'église de Dieu avec autorité. Il dit, voici, l'église de Philadelphie, verset 7, Apocalypse 2, il dit, voici, dit-il, non, 3, je m'excuse, Apocalypse 3, voici, dit-il, ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme. Celui qui ferme et personne n'ouvre. Autrement dit, là encore, il vous donne ici la puissance du Christ. Puissance que le Christ donne à cette église, à cette phase de l'église. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Lisez-le vous-même. Il y a deux choses principales avant de conclure. Il dit, écoute, tu as quelque chose que j'aime et c'est quelque chose que tu dois le garder. Il dit, parce que, verset 10, Apocalypse 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Mes frères et mes sœurs, tâchez de comprendre. Tâchez vraiment de vous concentrer à cette instruction divine. Parce que tu as conservé la parole, parce que tu t'es pas faibli, parce que tu as était fidèle à Dieu. Il dit, parce que tu as gardé la parole de Dieu, dit-il, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. De quoi est-ce qu'on parle? Nous aurons bientôt des jours de détresse comme jamais auparavant. Le Christ nous promet de nous garder, de nous préserver. Il dit, si tu gardes cette parole, voilà, donc la recommandation importante, si tu gardes cette parole, je te préserverai au jour de détresse. Et ces jours de détresse sont juste devant nous. Ensuite, il dit quelque chose d'autre. Il dit, voici, dit-il, bientôt, dit-il, je viens. Retiens ce que tu as. Verset 11. C'est malheureusement ce que certains n'ont pas fait dans cette église de Philadelphie. Ils n'ont pas retenu ce qu'ils avaient. Il dit, retiens ce que tu as pour que tu ne perdes pas ta couronne. Et la même récompense, celui qui vaincra jusqu'à la fin sera récompensé. Commencez à comprendre. Tout ça pour vous expliquer, non, il n'y a pas de raison de douter de Dieu. J'ai pris seulement, vous savez, en vitesse, les sept phases de l'Église de Dieu. Prenez le temps d'étudier les promesses, la façon dont le Christ se présente. Et ensuite, dites-moi vous-même, vraiment, est-ce que je crois à la Bible? Est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Vous vous regardez et vous dites, mais qui suis-je? À comparer aux autres, peut-être vous n'êtes absolument rien. À comparer aux grands de ce monde, vous n'êtes peut-être rien. Même à comparer à vos voisins, vous n'êtes rien. C'est possible. Et ces sentiments de « qui suis-je, pourquoi moi » créent en vous des doutes. Mais dissipez ces doutes par ce que je viens de vous dire et par une parole fantastique du Christ, de persévérance, car le Christ veut que nous persévérions. C'est ça le secret. À celui qui vaincra, à celui qui arrivera jusqu'au bout. Donc ne vous découragez jamais. persévérez quoi qu'il arrive. Rappelez-vous ce que le Christ a dit à son Église. Vous, moi, les petits, nous qui sommes rien, nous qui ne sommes absolument rien. Le Christ dit dans Luc, chapitre 12, verset 32. Regardez cette phrase, Luc 12, 32. Ne crains point. Vous, cette phrase que nous avons vue dans, au travers de ce sermon, Dieu a dit, ne crains pas. Ne crains rien, ne crains point, dit-il, petit troupeau. Voyez-vous, il ne dit pas grand troupeau. Voilà vous et voilà moi. Ne crains point un petit troupeau, car votre Père trouve bon de vous donner le royaume. Voilà la promesse finale. Dieu veut que vous soyez sauvés. N'ayez pas de doute, mais faites votre part. Obéissez à Dieu et soyez plein de force, plein de courage. La vie est belle, mais c'est vous qui en faites ce que vous en faites. Vous pouvez rendre cette vie merveilleuse malgré vos difficultés, malgré vos maladies, vos tristesses, car vos yeux seront sur le royaume de Dieu. Et Dieu vous a dit, c'est sa volonté de vous donner le royaume.